Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Lapleigny qui va nous parler de Wittgenstein chez Thomas Bernhard, c'est-à-dire l'usage effectivement assez régulier et particulièrement frappant que Thomas Bernhard a fait de Wittgenstein. Jean-François Lapleigny est maître de conférence à l'Université Paris 4. Il est l'auteur d'une thèse à tous égards remarquable, je le sais parce que j'étais au jury, qui portait sur la réception ou la non-réception, selon les cas, de la psychanalyse chez un certain nombre d'écrivains allemands et autrichiens. Je n'en dis pas plus. J'espère simplement que cette thèse sera publiée un jour. Est-ce qu'il en est question ?
Cette année, normalement.
Il en est question.
Cette année, normalement.
Bon, très bien. Je m'en réjouis. Vous avez la parole. Je n'en dis pas plus.
Merci beaucoup. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un usage particulier, un usage littéraire de Wittgenstein par un auteur à tous égards extrêmement particulier lui-même, Thomas Bernhard. Et je commencerai donc cet exposé peut-être par remettre un petit peu en contexte ce genre d'usage littéraire d'un philosophe dans les grandes structures de la littérature allemande qui sont extrêmement différentes sur bien des points de la façon dont ça fonctionne dans la littérature française. La réception, ou plutôt la prégnance de la philosophie dans le milieu littéraire, est justement une structure forte de la littérature allemande depuis au moins le XVIIIe siècle, et elle s'effectue selon des modalités qui distinguent cette littérature de bien des littératures européennes contemporaines de la même époque. Donc une prégnance de la philosophie et une lecture des philosophes extrêmement suivie parmi les écrivains majeurs. Et on peut situer à la fin du XVIIIe siècle la matrice historique de ce phénomène, peut-être en citant trois grands exemples, le spinozisme de Goethe, qui est un élément qui informe l'œuvre de Goethe depuis la période du Sturm und Drang. Deuxième exemple, le phénomène de la Saint-Philosophie chez les romantiques d'Iéna et cette façon de lier de façon tout à fait particulière production et réflexion littéraire et philosophique au sein d'un même cercle. Donc je parle du romantisme de la toute première période entre 1795 et 1802 et la mort de Novalis. Et peut-être, à plusieurs égards, un exemple très parlant, je veux parler de la crise kantienne de Heinrich von Kleist, qui transparaît dans la correspondance de Kleist à partir de mars 1801, date à laquelle il commence à s'intéresser de près à Kant et à lire les écrits de Kant. Et c'est donc de mars 1801 que date, on va dire, le premier grand malentendu entre littérature et philosophie, puisque Kleist lit Kant comme étant en quelque sorte un message de désespoir, comme si toute entreprise de connaissance était vouée à un échec radical, transcendantal, hein, a priori en quelque sorte, un échec avant même d'avoir commencé. Cette crise kantienne de Kleist forme le modèle d'un certain type de malentendu qui touche la philosophie de la connaissance et du langage dans le milieu littéraire. Je cite une phrase d'une des lettres de Kleist de mars 1801, une lettre à sa sœur Ulrike. « Mein einziges und höchstes Ziel ist gesunken, ich habe keines mehr. » Donc mon seul et mon but unique et suprême a sombré, je n'en ai plus. Mon seul et unique but étant, pour Kleist, justement, la connaissance. Et finalement, on peut dire que le passage de Kleist, ou plutôt la décision univoque de Kleist pour une carrière littéraire, date justement de cette crise kantienne. Mais le moins qu'on puisse dire est que Kleist absolutise, en quelque sorte, les thèses kantiennes et fétichise l'expression. C'est un destin identique qui, à mon avis, attend au XXe siècle, la proposition 7 du Tractatus, justement, qui va plonger un certain nombre d'écrivains lecteurs de Wittgenstein dans le plus profond désarroi, se disant que si finalement tout langage doit être limité à des phrases pleine de sens, hein, sinnvoll, eh bien, où situer à partir de ce moment-là l'entreprise littéraire. Chaque époque qui va suivre cette matrice, en quelque sorte, de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, va apporter une variante de ce modèle de base qui a été institué par ces trois grands exemples. On pourrait citer Heine et Hegel, Thomas Mann et Schopenhauer, Celan et Heidegger, à trois grandes époques cardinales, justement, de ce phénomène, mais ces trois exemples ne sont que quelques-unes des façons de poser la question de la réception littéraire de la philosophie. Le milieu dans lequel évolue Thomas Bernhardt, l'Autriche de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale, est tout à fait caractéristique à cet égard, puisque Thomas Bernhardt n'est qu'un des grands écrivains de ce pays et de cette époque qui soit grand lecteur de philosophie. Un bon exemple de ce phénomène, c'est Ingeborg Bachmann, qui consacre sa thèse de doctorat qu'elle publie en 1949 à la réception critique de la philosophie existentielle de Martin Heidegger, thèse soutenue à Vienne. Et justement, Bachmann fait preuve d'une très fine connaissance de la philosophie du XXe siècle, hein, non seulement de Heidegger, mais aussi de tout le positivisme logique, pardon. Elle commence du reste le premier chapitre de cette thèse, par une longue analyse de la critique que fait Carnap justement de la philosophie heideggerienne. Et du reste, elle va consacrer en 1953, à l'occasion de l'annonce de la publication des recherches philosophiques et du livre bleu, un article à Wittgenstein, qui est intitulé donc Ludwig Wittgenstein zu einem Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte, Ludwig Wittgenstein à propos d'un chapitre de l'histoire de la philosophie la plus récente. Ce qui prouve bien que justement Bachmann est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la philosophie la plus récente et pas simplement aux auteurs canoniques. Je passe peut-être sur Bachmann qui n'est pas vraiment notre sujet, mais on pourrait faire à peu près le même type de communication avec peut-être d'autres thèses. Sur Bachmann, justement, sur l'usage que fait Bachmann de Wittgenstein à l'intérieur de sa littérature. Ce serait peut-être plus complexe et peut-être un petit peu moins drôle aussi que dans le cas de Thomas Bernhardt. Mais on pourrait citer, par exemple, une phrase centrale dans une de ses interviews, une formule, « Wir müssen wahre Sätze finden », donc « Nous devons trouver des phrases vraies », c'est évidemment le but de la littérature pour Bachmann, mais c'est bien sûr un jeu avec le vocabulaire wittgensteinien. Hein, et justement, l'idée de trouver des phrases vraies me semble dans un rapport de tension tout à fait caractéristique de ce genre de réception par rapport au corpus des thèses de Wittgenstein, notamment au Tractatus. Un autre exemple de cette façon de s'approprier la philosophie, un exemple beaucoup plus récent, beaucoup plus contemporain même, Elfriede Jelinek, qui dans un texte des années 90, je crois, qui s'intitule « Lire », qui a été traduit par Olivier Lelay dans le numéro de la revue Europe qui est consacré à Jelinek. Donc Jelinek, il décrit sa lecture de la philosophie par l'image de la dévoration, et où c'est un texte dans lequel elle se décrit elle-même comme un oiseau de proie qui donc fond littéralement sur les phrases philosophiques qu'elle déchiquette et qu'effectivement elle introduit ensuite dans son propre travail littéraire. Ces deux exemples, Bachmann, Jelinek, indiquent bien dans quel rapport de sympathie mais aussi d'hostilité ce genre de littérature, ce genre d'écriture radicale justement se situe par rapport à la philosophie. Si l'on veut se concentrer un peu plus sur Wittgenstein et sur, disons, les écrits contemporains des grands écrits de Bernhardt dont nous allons parler aujourd'hui, on pourrait relever par exemple des traces de la lecture de Wittgenstein chez Bachmann elle-même dans des nouvelles comme « La 30e année » d'Das 30. Jahr en 1961, ou même dans « Malina » 1971, donc le plus grand pan de son projet sur les façons de mourir, un tour de Sartre. On trouve également chez un autre auteur, chez Peter Handke, des traces explicites de cette lecture dans Caspar. On pourrait citer des passages entiers de Caspar qui sont en réalité des réécritures de passages entiers du Tractatus, justement. C'est toujours très intéressant parce que les auteurs de cette époque-là ont tendance à plutôt lire et réutiliser le Tractatus, qui, à première vue, semble peut-être la solution la moins évidente. On pourrait penser que la philosophie tardive de Wittgenstein est plus propice à une réutilisation littéraire, mais l'expérience et la lecture surtout montrent que ce n'est pas forcément le cas. Pour arriver lentement à Thomas Bernhardt, après cette longue entrée en matière, on peut voir que si Thomas Bernhardt n'est pas isolé à l'intérieur de la constellation des différents auteurs, grands auteurs autrichiens, notamment cette grande triade Bachmann, Hanke, Thomas Bernhardt, donc s'il lui-même n'est pas isolé, de même Wittgenstein n'est pas isolé non plus à l'intérieur de sa lecture des philosophes. On sait que Bernhardt est quelqu'un qui est très intéressé par la philosophie et qui cite à tout bout de champ toute une kyrielle d'auteurs, alors que ce soit Bernhardt lui-même qui les cite, comme par exemple dans un de ses discours de 1968. En 1968, Bernhardt reçoit deux prix, le prix national autrichien, le petit prix national autrichien, pas le grand, justement celui dont il dit que n'importe quel imbécile le reçoit, n'importe quel imbécile qui écrit des livres le reçoit à un moment de sa vie. Donc, à l'occasion duquel, de la remise duquel, il va provoquer un esclandre avec le ministre autrichien présent. Mais dans l'autre discours qui n'a jamais été prononcé justement pour éviter un nouvel esclandre, le discours qui était prévu pour la remise du prix Anton Wildkanz de l'industrie autrichienne, qu'il recevait la même année, il cite les différents paysages de son enfance dans une sorte de liste, enfin d'énumération à l'après-vert, en même temps qu'un certain nombre de philosophes. On dirait en allemand une énumération de choux et de betteraves. Donc effectivement, une énumération de choux et de betteraves qui comprend aussi bien les paysages alpins de sa prime enfance, dont on sait qu'ils sont extrêmement prégnants pour son imaginaire, mais aussi des gens comme Montaigne et comme Wittgenstein, justement. Donc que ce soit chez lui-même, mais aussi chez ses personnages dont on sait qu'ils jouent un rôle ambigu de représentant à l'intérieur des écrits. Nous allons nous intéresser beaucoup au roman Correction, Correction au pluriel, Correctur, de 1975. Et dans ce roman, le personnage de Reuthammer est accompagné lui-même de son cortège de philosophes, Montaigne, Pascal, Hegel et aussi Wittgenstein. La question qui nous occupe aujourd'hui, la question de l'usage littéraire de Wittgenstein, me semble une excellente façon d'aborder ce genre de choses. Si vous voulez, les études littéraires, nous sortons, enfin, on n'en finit pas de sortir plutôt, d'une période où les spécialistes de littérature ont tendance à lire la philosophie comme si c'était de la littérature comme si c'était de la philosophie, de tout mettre à l'intérieur d'un même pot et d'essayer de voir ce qui peut sortir de ce genre de fatras. Et la question de l'usage, justement, me semble une question tout à fait précise. C'est-à-dire, au sens d'utiliser le mot d'usage presque comme une utilisation ou même un mésusage de la littérature, de la philosophie à l'intérieur de la littérature. C'est la question de ce qu'on fait, de ce qu'on a lu, qui est importante ici. C'est la question de la transformation aussi, de la portée symbolique, éventuellement biographique, comme ce sera le cas ici, du personnage du philosophe, la question de l'usage stylistique du style littéraire à l'intérieur du style philosophique à l'intérieur du style littéraire, la question des torsions, la question des malentendus, des traductions. Et c'est justement ce phénomène de transformation qui me semble être de plus en plus à l'avant-plan dans les études récentes, que je dis récentes, ça fait bien une vingtaine d'années quand même, mais, et qui me semble être la façon intéressante justement, ou l'alternative intéressante à une lecture qui aurait tendance à tout mettre dans le même pot, justement. Donc il me semble intéressant, à l'intérieur de cette question de l'usage, de tenter de vraiment mettre en évidence ce qui fait la singularité d'un usage littéraire, c'est-à-dire littéraire, pas simplement de la lecture philosophique transposée à l'intérieur d'un texte littéraire, mais vraiment d'une lecture littéraire et d'un usage littéraire. Je commencerai tenter de distinguer les différentes présences de Wittgenstein à l'intérieur des textes de Thomas Bernhardt, les différentes façons dont Wittgenstein, notamment comme personnage, est représenté. Alors, je suis désolé, dans le papier que vous avez, il n'y a pas de plan de mon exposé. Vous serez obligé de suivre ce que je dis. Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur une question qui me préoccupe personnellement, en fait. Est-ce que le malentendu entre littérature et philosophie est une fatalité? En quelque sorte, est-ce que même un lecteur attentif comme Bernhardt et quelqu'un qui a énormément réfléchi sur la matière textuelle et la matière de la langue est en quelque sorte condamné à buter justement sur ces phénomènes de traduction, de transfert et de torsion entre les deux domaines? Et je terminerai sur une tentative d'interprétation de cette présence de Wittgenstein chez Thomas Bernhardt, tentative parce qu'il faudrait pour traiter cette question-là, à mon avis, bien 3 ans de thèse, et à mon avis, ce ne sera même pas tout à fait suffisant. Donc, tentative d'interprétation de cette présence de Wittgenstein chez Thomas Bernhardt autour d'une tension entre logique et folie, justement, qui est une tension qui accompagne le personnage de Wittgenstein à l'intérieur des différents textes que Bernhardt lui consacre. Alors, pour commencer, donc, les présences de Wittgenstein chez Thomas Bernhardt, en soulignant, en commençant, le fait que cette présence est soumise à une histoire, c'est-à-dire que on peut raisonnablement supposer qu'effectivement il y a plusieurs phases dans la vie de Thomas Bernhardt durant lesquelles il va s'intéresser à Wittgenstein. Il est probable qu'il a lu le Tractatus très tôt, il est probable aussi qu'il ait lu les recherches philosophiques assez tôt également. Il va y avoir une phase secondaire, en quelque sorte, à partir du début des années 70, durant laquelle Bernhardt va s'intéresser de plus en plus au personnage de Wittgenstein lui-même, où il va se renseigner sur les données biographiques. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, ce sont les données biographiques qui vont prendre de plus en plus d'importance, une importance de plus en plus centrale dans la façon dont Wittgenstein va rentrer dans le corps littéraire des œuvres de Bernhardt. Alors, je commencerai par un usage, enfin, j'ai essayé de classer ces différentes présences, du plus évident, peut-être du plus trivial au plus problématique, en commençant par la façon dont Bernhardt utilise le nom de Wittgenstein avec une visée satirique pour pointer les usages sociaux de Wittgenstein et le ridicule de ces usages sociaux. Ça apparaît d'ailleurs à plusieurs endroits sous la forme de ce qu'on appellerait en anglais le name dropping, c'est-à-dire le fait de laisser tomber un nom dans la conversation pour pointer sa propre, pour plutôt souligner, mettre en évidence sa propre culture et éventuellement mettre en évidence justement l'inculture de son interlocuteur. C'est le cas dans Marché, qui est un texte, donc vous avez la liste des textes que je cite sur la première page, qui est un texte, mais je n'ai pas copié cette première page, 1970, je crois. Je cite, c'est la citation numéro 1, page 2. Karin a d'abord prolongé son séjour dans le magasin de Rustenschachin à cause de ses douleurs dans les jambes, dis-je à Chéra, dit Eula. Il est évident qu'avant d'entrer dans le magasin de Rustenschachin, nous avons trop marché, et n'avons pas seulement trop marché, mais trop vite aussi. Plongé que nous étions en même temps dans une conversation épuisante à propos de Wittgenstein, dis-je à Chérin, dites Eula. Je cite ce nom à dessein parce que je savais que Chérin n'avait jamais entendu ce nom, ce qui s'est confirmé aussitôt au moment où je citais le nom de Wittgenstein, dit Eula. Mais ensuite, Kara avait probablement oublié ses jambes douloureuses et l'unique raison était sans doute qu'il ne pouvait plus le quitter, qu'il ne pouvait plus sortir du magasin de Rustenschachin. On voit très bien que cette pratique de name-dropping, déjà, elle est mise à un niveau médian dans les différentes strates du texte. Il faudra s'habituer au fait que les textes de Thomas Bernhardt sont toujours extrêmement stratifiés. Celui-là est peut-être un des plus pervers, justement, dans sa stratification, puisqu'on a 2 niveaux de citation. Hein, on a un personnage qui raconte, Eula, une conversation qu'il a tenue avec Chérin, dans laquelle il relate une marche dans Vienne qu'il a eue avec son collègue philosophe Kara. Euler et Kara étant deux philosophes, sinon de profession, du moins d'activité. Et cette inclusion du nom de Wittgenstein à l'intérieur même de la phrase, même à l'intérieur des tirets qui sont le fait du traducteur, mais on a des virgules en allemand, ça sert à peu près à la même chose, montre bien que, en quelque sorte, le nom de Wittgenstein fonctionne comme un piège au milieu de la phrase, dans lequel, justement, Scherer est censé, qui est donc le personnage intermédiaire, qui est censé, dans lequel Scherer est censé s'enferrer, mais en fait, finalement, c'est plutôt Euler lui-même qui s'enferre à l'intérieur de cette machine de texte. On aurait plusieurs exemples de name-dropping à plusieurs moments. On les verra peut-être au fur et à mesure. Je vous donne peut-être simplement, pour le moment, les exemples les plus caractéristiques. La connaissance de Wittgenstein qui est présupposée par cette pratique du name-dropping, c'est une connaissance complètement imparfaite et qui est d'autant plus imparfaite qu'elle sous-tend, en fait, une posture, la posture de celui qui a lu et compris le Tractatus, justement. Puisque c'est justement le Tractatus qui est impressionnant chez Wittgenstein. On le voit bien dans la citation numéro 2, au tout début du neveu de Wittgenstein, où il est question d'un cancérologue, le professeur Salzin. Je cite la citation 2. « Ce fameux professeur Salzin était un oncle de mon ami Paul, également neveu du philosophe, dont tout le monde savant, et plus encore tout le monde faussement savant, avait lu, il manque le verbe, avait lu connaissait plutôt le Tractatus Logico-Philosophicus, et juste pendant que je séjournais au pavillon Hermann, mon ami Paul séjournait à quelques 200 mètres de là, au pavillon Ludwig, qui, il est vrai, ne faisait pas, comme le pavillon Hermann, partie du service de pneumophthysiologie, et donc de ce qu'on appelle la Baumgartnerhöhe, mais de l'hôpital psychiatrique du Steinruf. Où l'on voit aussi que cette pratique de la citation sociale de Wittgenstein intervient toujours dans les contextes les plus abracadabrants, et que c'est justement ça qui fait ressortir en quelque sorte la citation du nom. Et je fais remarquer évidemment dans cette citation également la première citation de ce fameux pavillon Ludwig qui n'existe pas du tout. Les pavillons du Steinruf n'ont jamais eu de nom. Le Steinruf, c'est l'asile, c'est en quelque sorte ce qu'on appelait les petites maisons, si on voulait faire le parallèle avec le neveu de Rameau, de Diderot, ce que Diderot nomme les petites maisons, ce qu'on nommait à Paris les petites maisons, ce qu'on appellerait maintenant Sainte-Anne, justement, avec la même visée symbolique, c'est le Steinruf à Vienne. Les pavillons du Steinruf n'ont jamais eu de nom, celui-là s'appelle Ludwig, comme l'oncle de Paul Wittgenstein. Troisième exemple, qui souligne la bêtise de cet usage social de Wittgenstein, de cet usage de Wittgenstein comme signe de reconnaissance sociale, ce sont deux extraits, l'un des arbres à abattre, Holzfällen de 84, l'un de Extinction, publié en 86, citation 3A et 3B. La première, « Je rencontrai les époux Auersberg sur le Graben et, avant de poursuivre leur route, ils laissèrent entendre, en allemand sie meinten, ils laissèrent entendre qu'ils s'étaient acheté tout de Ludwig Wittgenstein. » Le Graben, ce sont les petits Champs-Élysées viennois, c'est l'avenue où l'on se montre, c'est une avenue piétonne où l'on se montre, en dessous d'une colonne de la peste, et donc les époux Auersberg pavanent en quelque sorte avec leurs œuvres complètes de Wittgenstein, dont on peut évidemment douter qu'ils vont les ouvrir une fois rendus chez eux. Dans la citation 3B, peut-être un petit peu moins sarcastique, Gambetti, le bien nommé, parcourt Rome en tous sens avec les livres de Jean-Paul, Kleist et Wittgenstein sous le bras. On pourrait commenter la tension justement entre les trois noms, hein, qui c'est un peu un jeu du chercher l'intrus, notamment entre Jean-Paul et Wittgenstein, même si justement l'opposition n'est peut-être qu'apparente. Troisième exemple, dans une pièce qui n'a pas été traduite, Élisabeth II, de 1987, nous avons une comtesse qui est l'incarnation du snobisme intellectuel, comtesse Gräfin Gudenus, la comtesse Gudenus, qui dit « C'est étonnant pour une œuvre philosophique, on en vend pourtant la plupart du temps tout au plus quelques centaines d'exemplaires. Pensez au Tractatus Logicus Philosophicus, avec évidemment l'erreur à ne pas commettre dans ce genre de situation, puisque nous sommes quand même dans cette situation, dans l'antichambre, ou plus ou moins dans le palais de Buckingham. Donc, ce n'est pas du tout l'endroit pour faire des erreurs, justement, sur le titre des œuvres connues, même si on ne les a pas lues. Je vais rentrer dans un exemple peut-être plus complexe de ce genre de citation et du jeu autour de la compréhension ou de l'incompréhension autour de Wittgenstein. C'est la citation 4, qui est issue du roman Das Kalkwerk, 1971, traduit sous le titre La Plâtrière. La situation du roman entier, dans Bernard, on n'a souvent qu'une seule situation de base qui est à peine variée dans le roman. C'est donc qu'on a un couple dont le mari est donc un philosophe misanthrope reclus dans une ancienne plâtrière qu'il compte bien remettre, sinon en état, du moins rénover suffisamment bien pour pouvoir y habiter. Et sa femme qui est infirme, qui ne peut pas partir, qui ne peut pas s'échapper. Vous allez voir le caractère atroce de cette situation. Première situation dans le texte, c'est la première citation. Prononçait-il les noms de Pascal, Montaigne, Descartes, Dostoïevski, Gregor Mendel ou Wittgenstein ou Francis Bacon ? Elle ne le comprenait pas davantage. Une situation d'incompréhension entre les deux époux, simplement parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes goûts, ces deux-là. Et cette situation sans issue trouve une conséquence notamment dans la politique de lecture du mari à l'égard de la femme, puisque étant paralysée, elle ne peut pas lire elle-même, il est obligé de lui faire la lecture. C'est la deuxième citation. Il pense qu'elle a envie qu'on lui lise « Ofterdingen », le roman de Novalis, et il lui lit « Kropotkin ». Ce faisant, il l'assomme. Nulle autre punition n'est plus efficace que lorsqu'au lieu d'Ofterdingen, son livre à elle, il lui lit Kropotkin, son livre à lui. Pour chaque faute d'inattention pendant les expériences pratiquées selon la méthode d'Urbanchich, pour toute distraction ou toute rebuffade en général, il la punit en lui lisant Kropotkin. Pourquoi ? Parce qu'il fait des expériences sur la structure de l'ouïe avec cette femme qui ne peut pas bouger. Donc il lui répète un certain nombre de fois des phrases, qui est à peu près d'ailleurs ce que nous impose Thomas Bernhard quand on le lit. Il répète un certain nombre de phrases pour voir l'effet que font sur lui des séries répétées de voyelles toutes identiques. Mais évidemment, ce genre de traitement implique toujours une réaction, une vengeance. Cette vengeance est dans la troisième citation, dans une très longue phrase. J'ai été obligé de couper une très longue phrase. Je cite, « Mais à chaque instant, elle l'envoyait à la cave. Elle attendait le moment propice, celui où il s'apprêtait à lui lire du Kropotkin. Ou bien, où il commençait à parler de Francis Bacon, de Wittgenstein, dont il citait les phrases avec dilection. » D'ailleurs, ces citations du Tractatus, la traduction nous donne du traité, mais le Tractatus, citation du Tractatus de Wittgenstein, était devenue pour lui, ces derniers temps, une habitude effectivement insupportable pour une femme qui les avait toujours détestées. Au moment précis où il citait Wittgenstein, elle l'envoyait chercher du cidre à la cave, avait dit Conrad Afro. On a ici, comme d'habitude chez Bernhard, plusieurs niveaux de lecture de cette chose qui est évidemment très drôle au premier abord. C'est au-delà de la situation psychologique justement de ce couple qui ne se comprend pas et qui n'a pas, en quelque sorte, qui n'a aucun terrain d'entente, ni humain, ni en tout cas littéraire, ni philosophique, c'est justement la confrontation entre cet homme qui tente, même éventuellement au mépris du respect humain le plus élémentaire, de vouer sa vie au savoir, et qui en quelque sorte cite Wittgenstein et Francis Bacon comme les deux garants de cette recherche, et ces deux garants en quelque sorte même de la vérité de ce qu'il pourrait éventuellement dire, donc la confrontation de ce premier projet de vie et d'un projet de vie qui n'a absolument rien à voir et qui va se centrer justement autour de la consommation de ce cidre. Alors en allemand c'est Most, c'est plus fort que du cidre, c'est quelque chose qui est justement plutôt de l'ordre d'un abrutissement. Hein, la consommation de most est une chose qui n'a rien à voir avec simplement la consommation de cidre. Et donc cette confrontation des deux projets de vie, elle est évidemment ici satirisée, ce qui fait qu'il est très difficile de savoir effectivement de quel côté on aurait le poids le plus positif. Et c'est justement un des problèmes de cette présence de Wittgenstein chez Bernhardt, au-delà de l'admiration extrêmement sincère, extrêmement vive que Bernhardt vouait aux philosophes, c'est justement les limites de la forme de vie qui correspond à celui qui lit Wittgenstein. Ce qu'on verra un peu plus tard. Deuxième grand usage, deuxième grande présence de Wittgenstein chez Thomas Bernhardt, c'est Wittgenstein à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le système autrichien ou le système Autriche. On sait que, enfin, Bernhardt est connu, comme la plupart comme un certain nombre d'autres auteurs autrichiens de l'après-guerre, pour avoir été extrêmement virulent envers son pays d'origine, surtout à la fin des années 60 et dans les années 70. Les années 80, c'est toujours aussi virulent, mais ça prend d'autres formes. Les premiers écrits de Wittgenstein, et c'est tout à fait paradoxal, sont plutôt une façon de glorifier le terroir. C'est plutôt des écrits de terroir. On a d'assez mauvaises poésies, assez mauvaises par rapport à ce qui va suivre, qui montrent déjà une très grande maîtrise stylistique, mais une totale naïveté dans l'abord justement du caractère local et national des paysages qu'il décrit, même si effectivement on a déjà une épaisseur dans ses écrits qui est liée à la biographie, à l'aspect biographique de Bernhardt qui va ensuite prendre toute la place, hein, le premier plan. Et au cours des années 50 et 60, surtout à partir juste avant la publication de Frost, donc de Gel, on va avoir un glissement vers cette position extrêmement haineuse envers l'Autriche, ou en tout cas très violente. Haineuse, c'est la façon dont les Autrichiens l'ont ressenti. Violente, c'était ce qu'elle était probablement de façon plus objective. Je vous cite peut-être comme exemple des extraits de ce fameux discours qui a fait scandale en 1968, le discours du 22 mars 1968. Je cite, « Il n'y a rien à exalter, rien à condamner, rien à accuser. Il y a bien des choses risibles. Tout est risible quand on pense à la mort. Nous sommes Autrichiens, nous sommes apathiques. Nous sommes la vie comme indifférence vulgairement partagée à la vie. Nous sommes, dans le processus de la nature, la folie des grandeurs, le sens de la folie des grandeurs comme avenir. Nous n'avons rien à dire sinon que nous sommes pitoyables, que nous avons succombé par imagination à une monotonie philosophico-économico-mécanique. Ce que nous pensons a déjà été pensé, ce que nous ressentons est chaotique, ce que nous sommes est obscur. Nous n'avons pas à avoir honte, mais nous ne sommes rien non plus, et nous ne méritons que le chaos. » La suite de ce discours de 68, c'est une succession de scandales littéraires qui vont se répéter jusqu'au tout dernier, jusqu'au coup d'éclat, en 88, de la mise en scène de la Place des Héros à Vienne, pièce qui va ensuite tenir l'affiche pendant 10 ans, ce qui montre bien la résistance de l'estomac de l'Autriche en tant que pays, hein, c'est-à-dire la façon d'ingérer tout ce qui pourrait éventuellement, et d'intégrer à sa propre image, tout ce qui pourrait éventuellement aller contre un certain nombre de mythes fondateurs de cet État. Dans ce contexte, Wittgenstein remplit un certain nombre de rôles. Le premier de ces rôles, c'est qu'il incarne le génie autrichien incompris dans son pays. On pourrait citer le cas aussi de Freud, qui n'est cité en réalité qu'une seule fois, autant que je sache, dans Le neveu de Wittgenstein. Mais finalement, c'est Wittgenstein lui-même qui va assumer la plupart de ses traits. Je me reporte à la citation 5, toujours page 2, dans Marché, 1971. Je cite, « Ce qui est exceptionnel a toujours été ignoré dans ce pays, dit Eula, et ce, de tout temps, ignoré au point de conduire certains au suicide. Si une tête autrichienne est exceptionnelle, dit Eula, son suicide ne saurait tarder, ce n'est là qu'une question de temps, et l'État compte là-dessus. » Je mets en regard de cette citation un extrait de la citation 15, page 4. Dans le premier paragraphe, il s'agit d'une lettre de la même année, 1971, où on nous dit, après le tiret, « En Autriche, philosophie et poésie, la poésie mathématiques musicales sont un mausolée absolu. Regardons-nous l'histoire à la verticale. Regardons à l'impératif. Regardons-nous l'histoire à la verticale. C'est effrayant en un sens, progressiste en un autre. Bref, au contraire de ce qui se passe chez d'autres peuples, la philosophie et l'art en Autriche n'existent pas dans la conscience de son peuple, mais seulement dans la conscience de la culture, de sa philosophie et de sa poésie. Ce qui est un avantage pour le philosophe et l'écrivain, s'il est conscient de cet avantage. Tout le problème est là, et la position que remplit Wittgenstein, c'est justement d'être l'incarnation de celui qui, certes, n'a pas été poussé au suicide, même si c'est ce qui sera mis en scène dans Correction en 1975, justement le suicide du personnage qui représente Wittgenstein, mais qui a été poussé à quitter, c'est la thèse de Bernhardt, qui a été poussé à quitter l'Autriche à cause de la médiocrité du pays d'origine. En même temps, justement, le fait que Wittgenstein ne soit pas mort, enfin ne se soit pas suicidé, mais soit allé en Angleterre enseigner et étudier, comme Bernhard dit dans Correction, permet à Bernhard aussi d'introduire une ambiguïté dans cette critique de l'Autriche. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une situation frontale, on a, grâce au personnage de Wittgenstein, un modèle, un support d'une position beaucoup plus ambiguë, beaucoup moins tranchée. On a, en fait, quelqu'un qui va être le support d'une tension entre l'extérieur de l'Autriche et l'intérieur de l'Autriche. On peut peut-être tout de suite citer la citation 6, page 2. Et là, j'interroge en quelque sorte Wittgenstein au travers de son personnage, du personnage qui le représente, et je ne l'ai pas encore démontré, mais je le ferai tout à l'heure, à savoir Reuthammer. Je cite, « Quand j'étais en Angleterre, c'est lui qui parle, Reuthammer, je ne faisais que penser toujours, et peu importe dans quelle disposition d'esprit, que ne fussais-je dans la mansarde Heller, c'est-à-dire en Autriche. Toujours arrivé au bout de ses pensées comme de ses sentiments. Si seulement j'étais dans la mansarde Heller. D'autre part, il apercevait clairement que se rendre dans la mansarde Heller pour toujours n'était pas synonyme de pouvoir penser pour toujours librement et sans être dérangé. » Et on a toute une page qui suit justement sur la question de savoir, et ce qui est évidemment une question qui n'est jamais tranchée dans le roman, est-ce que c'est mieux de rester à Cambridge, puisque Reuthammer enseigne où ça à Cambridge? Est-ce que c'est mieux de rester à Cambridge ou est-ce que c'est bien de rentrer en Autriche? Certes, rentrer en Autriche, mais rentrer dans l'endroit le plus isolé possible, dans une mansarde, dans un tout petit village autrichien. Bien sûr, il est hors de question de rentrer à Vienne. Et on sait d'ailleurs, d'après la correspondance de Wittgenstein, à quel point ces allers-retours incessants entre l'Autriche et Cambridge étaient, disons, synonymes d'une grande agitation pour Wittgenstein, puisqu'il, certes, il y passe tout le temps qu'il peut y passer, en quelque sorte, certaines années, un nombre important de semaines à l'intérieur de l'année universitaire, mais une fois qu'il est à Vienne, il écrit à ses amis pour dire qu'il va extrêmement mal, en donnant pour simple explication, ben, je suis à Vienne dans la famille, hein, avec toute cette tension-là, justement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que, finalement, l'introduction de Wittgenstein comme support biographique permet à Bernhard de relativiser, en quelque sorte, non, relativiser, ce n'est pas du tout le bon mot, d'introduire des ambiguïtés, d'introduire une chose beaucoup moins tranchée dans une opposition qui était auparavant beaucoup plus frontale. J'arrive, justement, à ce problème de donc, ce troisième point dans ma première partie, Wittgenstein comme matrice des personnages bernhardiens, en indiquant, pour commencer, que, bien sûr, Wittgenstein ne saurait être considéré comme la seule matrice des personnages bernhardiens. On n'a jamais rien d'univoque, hein, les personnages sont toujours des condensés de plusieurs inspirations, de plusieurs personnages réels, plus ou moins fictifs. Mais on peut déjà, dans un certain nombre d'œuvres, reconnaître dans le personnage principal, un décalque de certains éléments biographiques de Wittgenstein, surtout dans Correction, en 1975, dans Le neveu de Wittgenstein, dans Le déjeuner chez Wittgenstein, ce qu'on a traduit sous ce titre-là, mais qui a un titre beaucoup moins explicite en allemand, puisqu'il cite trois noms de personnes, Ritter, Dehn, Voss, qui sont trois noms de comédiens qui ont créé les œuvres de Bernhardt. Et on ne sait que grâce à une note à la fin du texte, que, enfin, non, on s'en rend compte en lisant le texte, mais disons, le rapport biographique à Wittgenstein n'est pas établi dans le titre, contrairement à ce qui est fait dans le titre qui a été donné par le traducteur français. Quels sont ces éléments biographiques reconnaissables ? Eh bien, d'une part, justement, pour les personnages de marché, comme dans le personnage principal de correction, c'est le métier de philosophe. Pour le personnage de correction, on a même un élément de plus, c'est le métier de philosophe à Cambridge. D'autres éléments que je cite pêle-mêle, ce n'est pas forcément la peine de rentrer beaucoup dans les détails. Enfin, on a les citations qui appuient la citation 7, où on nous présente justement Reuthammer comme un homme d'entendement et même un homme purement intellectuel, ein Verstandesmensch, ein Geistesmensch. Purement intellectuel étant pas forcément la meilleure traduction, mais effectivement, un homme d'esprit n'est pas une traduction qui fonctionnerait du tout en français. Quand on pense à un homme d'esprit, on pense à complètement autre chose que ce que ça signifie justement en allemand. Donc restons-en à l'homme purement intellectuel. Donc Cambridge, c'est la citation 8, je cite, « Cambridge, où d'une part il étudiait sans cesse tout en enseignant sans cesse, d'autre part, et comme toujours il le répétait lui-même, sans jamais savoir exactement lui-même si à un certain moment il étudiait ou s'il enseignait, car si j'enseignais au fond j'étudiais, si j'étudiais au fond j'enseignais. » Et un peu plus loin, « Un jour, Reuthammer est rentré en Angleterre, arrivant d'Altensam, c'est-à-dire le pays de son père, et m'avait parlé de la fascination de la mansarde Höller. Nous nous étions réunis dans l'appartement de Reuthammer à Cambridge, vraisemblablement pour débattre d'un sujet philosophique ou touchant à la fois à la science de la nature et à la philosophie, ou pour discuter d'un problème qui vraisemblablement venait juste de lui apparaître, comme cela avait été si souvent le cas dans la confrontation avec ses élèves ou avec ses maîtres. Autre élément biographique qui permet de faire une connexion, l'ascétisme de la plupart de ces personnages, des gens qui vivent reclus dans des conditions extrêmement, de dédûment assez avancées, mais en même temps la générosité extrêmement poussée. On a beaucoup de personnages de Bernhard qui, au début du roman, héritent d'une très grosse somme, et tous ces personnages font don de cette somme extrêmement importante à des œuvres caritatives. Plus courante étant des œuvres destinées aux anciens prisonniers à peine libérés de prison, donc à leur réinsertion. On a ça dans Vatten, on a ça dans un certain nombre d'autres écrits, et évidemment c'est un parallèle tout à fait évident avec la vie elle-même de Wittgenstein, dont on sait que juste avant-guerre il fait don d'une partie de sa fortune à des artistes autrichiens dans le besoin, notamment Rilke, Trakl et d'autres, en 1913, mais aussi on connaît le don du reste de sa fortune après-guerre à ses frères et sœurs, son activité en tant qu'instituteur, etc., etc. Et son ascétisme de façon générale. Donc il y a quelque chose dans la figure de Wittgenstein qui fascine Bernhard. Autre élément qui peut sembler extrêmement trivial, mais qui vient sous-tendre justement le problème de la folie, qui est toujours lié à Wittgenstein, c'est le thème du suicide. On sait que trois des frères de Wittgenstein se sont suicidés dans les 15 premières années du siècle, dans l'immédiate avant-guerre. C'est bien trois ?
Oui,
c'est trois. Correction, on a le même phénomène, sauf que là où Wittgenstein, en quelque sorte, est exempt ou reste exempt de cette tendance, Reuthammer, lui, va y céder complètement, et c'est même l'aboutissement complet du roman. Je cite, citation 9, « Alors il se précipite dans une faille du rocher ou du haut du parapet d'un pont, où il se jette sous un train, comme mon troisième oncle a écrit, ainsi écrit Reuthammer. C'est nous-mêmes qui sommes le plus sujet au suicide, selon Reuthammer. » Le plus sujet, souligné. Un peu plus tard, un peu avant justement dans le roman, une autre notation justement qui indique, je vais citer, ce sera plus simple. Citation, un jour nous sommes arrivés à l'école en hiver et nous dûmes constater que le maître s'était pendu durant la nuit dans notre salle de classe. Et à plusieurs reprises, dans le roman, justement, on indique que cette tendance au suicide, c'est non seulement une spécialité de l'entourage de Reuthammer, c'est aussi une spécialité autrichienne en général, hein, qui fait qu'on parle de suicide, qu'on le pratique et qu'on cultive en quelque sorte cet art. Autre élément biographique, c'est en quelque sorte le centre de correction du roman Correction, c'est-à-dire la construction d'une maison. On sait que Wittgenstein a interrompu ses études philosophiques entre 1926 et 1928 pour construire, alors au départ en secondant Paul Engelmann, son ami élève d'Adolf Loos, puis en prenant les rênes en quelque sorte du chantier et en le menant à bien, donc la maison pour sa sœur, hein, Margarete Stornborough Wittgenstein, dans la Kuntmanngasse à Vienne. Et en parallèle, nous avons dans le roman Correction, une construction. Alors, une construction un peu particulière. Je cite, citation 10, « Un pareil esprit et un pareil être contradictoire qui utilisait l'héritage qui un jour lui avait été dévolu pour obéir à une idée extravagante, comme tous disaient, qui brusquement s'était manifestée dans sa tête extravagante pour ne plus le lâcher dans l'idée de construire pour sa sœur un cône d'habitation, Wohnkegel. » Kegel, c'est un cône, ou alors une quille, mais ce n'est pas une quille d'habitation, c'est un cône. Alors, la maison Wittgenstein à Vienne, qui existe toujours, qui est le siège actuellement, je crois, de la mission culturelle bulgare, qui a été sauvée d'ailleurs justement de la destruction au moment où au moment où Thomas Bernhardt était en train d'écrire Correction. Donc, c'est une chose qui est tout à fait d'actualité au moment de la rédaction du roman. Cette maison n'est pas de forme conique. Elle est constituée de volumes cubiques dans un agencement assez complexe. Évidemment, le cône est une façon d'absolutiser l'idée du philosophe bâtisseur, du philosophe mathématicien bâtisseur. Bien sûr, également de l'ironiser légèrement. Et de remettre en question tout le projet, en quelque sorte, en le mettant dans une perspective existentielle, si on peut dire, tout à fait différente. Alors, Reuthammer construit pour sa sœur, dans le roman, exactement, pourrait-on dire, comme Wittgenstein construit pour Margarete Wittgenstein, sa sœur, dans la réalité. Sauf que la sœur de Reuthammer, c'est un condensé, c'est une contamination des deux personnages de sœur de Wittgenstein, donc d'une part Margarete, d'autre part, Hermine, Wilhelmine, qu'il appelait Meaning, qui était sa sœur préférée. Et on a effectivement un rapport tout à fait étrange entre le frère et la sœur dans Correction, qui est tellement étrange d'ailleurs. La sœur n'est pas extrêmement présentée, sauf évidemment par le prisme de ce qu'en écrit le personnage de Reuthammer, qui lègue à son exécuteur testamentaire, qui est le narrateur du roman, ses papiers à classer et à corriger, plutôt à corriger et à classer, d'où le titre « Correction ». Il lui lègue trois manuscrits. Un manuscrit de 800 pages, qui est censé être la somme justement de ses réflexions philosophiques, tout comme de ses réflexions architecturales sur la construction du cône. Puis un autre manuscrit de 300 pages, qui est la condensation du premier, puis de 80 pages, et on apprend dans le roman qu'il projetait finalement d'en faire un fascicule de 20 pages. Donc avec une espèce de réduction aussi qui se mime aussi dans le roman. On a une réduction des facultés vitales de Reuthammer au cours de ce qui nous est cité dans le roman, puisque le roman n'est en fait qu'une citation réorganisée d'extraits de ses volumes fictifs, hein, de plus en plus fins. Et cet appauvrissement de la vie arrive justement au suicide dans la clairière, après que la sœur à qui était destiné le cône d'habitation est morte en s'installant dans le cône d'habitation qui avait été pourtant construit à sa mesure. D'où il résulte que construire une chose trop à la mesure des gens n'est pas forcément très bon pour leur vie. Et c'est justement la problématique de la vie qui est au centre de l'œuvre. Rien de tout cela n'est arrivé à la vraie Margarete Wittgenstein, qui a très bien vécu encore un certain nombre d'années dans sa maison de Vienne, en tout cas pendant les premières années. Et quand on regarde dans le détail de la construction, je vais peut-être avancer un petit peu, on s'aperçoit que Bernhard réutilise, en les adaptant très légèrement, mais réutilise de façon très nette, des éléments d'information qu'il a recueillis dans une publication de 1971 consacrée à l'activité de Wittgenstein comme architecte. Donc il réutilise tout simplement des extraits du journal de Wilhelmine Wittgenstein, des souvenirs de famille. Par exemple, les notations qui décrivent la maniaquerie de Wittgenstein qui fait faire et refaire toutes les pièces, les petites pièces de tout le mobilier, de toutes les huisseries, de toutes les boiseries de la maison, parce qu'il faut que ce soit au millimètre. Donc il fait refaire une fois, deux fois, trois fois, tout pour que tout soit extrêmement, enfin tout soit au millimètre près comme il l'a planifié. Et évidemment, on a la même chose chez Reuthammer, sauf que Reuthammer est resté en quelque sorte, s'est enfermé lui-même dans ce projet de construction, alors que Wittgenstein a mené le sien à bien et n'a donc pas tué sa sœur en quelque sorte par tant de perfection. Donc on a ce rapport extrêmement clair, mais en même temps évidemment imparfait, sans quoi il n'y aurait pas de littérature là-dedans, entre Reuthammer d'une part et Wittgenstein d'autre part. On pourrait relier ce statut de Wittgenstein comme matrice de différents personnages en allant plus loin à d'autres personnages. Alors ça, c'est peut-être simplement une hypothèse, mais elle ne me semble pas complètement farfelue, à tous ces personnages doubles qu'on a dans l'œuvre de Bernhard, Reuthammer étant lui-même un de ces personnages doubles, hein, ce qu'on appellerait en allemand « Doppelbegabung », c'est-à-dire quelqu'un qui est doué dans deux domaines différents, en l'occurrence pour la philosophie la plus abstraite en quelque sorte, mais aussi pour les arts en général. Et on a très souvent ce genre de tandem dans les personnages de Bernhard. On peut penser par exemple à la nouvelle Amras, qui met en scène deux frères, dont l'un est musicologue, musicien, et l'autre est au contraire chimiste. Il y a plusieurs chimistes, mais je ne sais jamais lequel est chimiste. Je crois chimiste. En tout cas, s'il n'est pas chimiste, il est dans ce domaine-là. Et on pourrait poursuivre ces tandems. On pourrait penser aussi aux deux compères Kara et Euler dans Marché, ou bien aux deux frères Schuster dans Place des Héros, hein, qui sont tous les deux professeurs et dont l'un des deux a été professeur en Angleterre, justement. Donc, à nouveau, une résurgence biographique. Alors, on débouche à un point problématique qui est que finalement, un certain nombre de ces éléments biographiques de Wittgenstein, notamment ce qui est lié aux traits de caractère de Wittgenstein, sont aussi des traits de caractère de Thomas Bernhard lui-même, et où on a tout un jeu assez compliqué, un jeu de double entre Wittgenstein et Bernhard lui-même. Alors ça, ce n'est pas simplement l'effet de mon interprétation éventuellement malvenue, mal placée, c'est ce que dit Bernhard lui-même. On pourrait peut-être, pour commencer, mettre une citation en exergue, une citation de correction, c'est la citation 13, page 3, je cite, « Quant au livre auquel il attachait le plus d'importance, on parle toujours de Reuthammer, leur énumération n'est pas longue et je les connaissais par des remarques de Reuthammer qui revenaient sans cesse et dans lesquels il avait établi une relation avec ses livres. Au fond, c'était toujours les mêmes. Montaigne, Hegel, Schopenhauer, Ernst Bloch, et parce qu'il croyait se reconnaître en eux, les écrits de Wittgenstein, qui était issu de la même région que Reuthammer, et avait toujours été un observateur attentif de la région de Reuthammer. Toujours, il s'agissait uniquement de quelques œuvres philosophiques et littéraires en petit nombre, sur lesquels il avait apposé son paraphe et qu'il avait toujours près de lui, peu importe où il séjournait et travaillait. » Ce qui est évidemment très savoureux, c'est cette notation sur les œuvres de Wittgenstein dans lesquelles Reuthammer croyait se reconnaître. Et pour cause, il croyait se reconnaître, lui-même étant un personnage de papier calqué sur les éléments biographiques connus de Wittgenstein. Mais évidemment, c'est un effet de reconnaissance qu'on pourrait qualifier d'étrange, unheimlich, hein, au sens aussi où le définit Freud, c'est-à-dire qu'il croit se reconnaître, mais ce n'est pas lui, c'est son double. C'est le fameux thème du double, présent depuis au moins le romantisme de façon récurrente dans la littérature allemande, et un thème du double qui est en plus constamment au premier plan des relations entre littérature et philosophie. On l'a notamment dans une lettre de Freud à Schnitzler où il dit « Ce qui m'inquiète en vous, c'est que je reconnais en vous mon double ». Et c'est une chose qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de choses. Alors, la citation 15 nous indique juste, enfin, nous permet de préciser cette chose-là. La citation de 15, c'est une lettre de Wittgenstein, de Thomas Bernhard à Hilde Spiel, qui était la rédactrice en chef d'une revue d'avant-garde, Versacrum, dans laquelle il décline en quelque sorte la proposition de Hilde Spiel de d'écrire pour la revue un texte sur Wittgenstein. Et je vous cite quelques passages de cette lettre. Au début, je vous ai promis une contribution pour votre Versacrum. Vous écrivez quelque chose sur Wittgenstein. Et j'ai cette idée en tête depuis 2 semaines. Et la difficulté d'écrire sur la philosophie et surtout la poésie de Wittgenstein, car à mon sens, Wittgenstein est un cerveau, une cervelle entièrement poétique, une cervelle philosophique donc, est la plus grande et la plus grande. Point. C'est comme si je devais écrire quelque chose. Des phrases, point d'exclamation, Z, sur moi-même, et ça ne va pas. Écrire sur soi-même, un peu plus loin. La question est, la question n'est pas, est-ce que j'écris sur Wittgenstein ? La question est, suis-je Wittgenstein un seul instant, sans le détruire, lui, Wittgenstein, ou me détruire moi, Bernhard ? Je ne peux répondre à cette question, et ne peux donc pas écrire sur Wittgenstein. Un peu plus loin, en bas, tout en bas, c'est pourquoi je n'écris pas sur Wittgenstein, non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne peux pas répondre à la question qui l'est. Je traduis comme ça la phrase « weil ich ihn nicht beantworten kann », ce par quoi tout s'explique. Ce par quoi tout s'explique si on connaît la proposition 6.5 et suivante du Tractatus sur justement la question à laquelle on peut répondre ou à laquelle on ne peut pas répondre. En gros, Wittgenstein est une, si Wittgenstein est une question à laquelle on ne peut pas répondre, Wittgenstein n'est pas une question qu'on peut formuler. Donc, si ce n'est pas une question qu'on peut formuler, a priori, ça peut être un être humain qui peut servir de support, c'est ce que j'ai essayé de montrer, mais en tout cas, ce n'est justement pas quelque chose à laquelle une œuvre littéraire pourrait répondre sous une, œuvre, sous une forme ou sous une autre, et j'irai peut-être même un peu plus loin à partir de cette lettre qui n'est pas un traité philosophique et qui m'autorisera peut-être que j'extrapole. Ça veut dire aussi que la littérature n'a pas à répondre aux questions que pose la la philosophie pose ou ne pose pas. C'est-à-dire que la littérature n'a pas à apporter de réponse, ce n'est pas du tout le rôle de la littérature. À la limite, la littérature aurait peut-être à s'essayer à poser des questions qui ne se posent pas, éventuellement, des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais en tout cas, on n'a pas, très nettement, dès 71, on n'a pas chez Bernhard l'idée de se confronter littérairement à une série de questions philosophique du type de celle que pourrait poser Wittgenstein pour un philosophe. Donc là, je crois que j'ai beaucoup débordé mon temps. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Je peux encore une vingtaine de minutes ?
Oui,
je passe enfin à ma deuxième partie, que je vais donc un petit peu réduire, sur l'impossibilité de la traduction entre littérature et philosophie, plutôt philosophie-littérature, et la fatalité éventuelle d'un malentendu entre les deux domaines. Je mettrai en frontispice, en quelque sorte, ou en exergue de cette deuxième partie, une citation tirée de la pièce Immanuel Kant, qui met en scène Kant sur un ferry, enfin sur un transatlantique en fait, qui fait la traversée avec son perroquet Friedrich, comme Frédéric de Prusse, qui est une pièce de 78. Et le deuxième tableau d'Immanuel Kant se termine après un silence assez long, nous dit Bernhard, par la phrase « Impossible de parler raison en haute mer ».« Impossible de parler raison en haute mer », »,« Impossible de parler raison » également probablement en littérature, sous la forme où on pourrait éventuellement dire que parler de raison pourrait avoir éventuellement un sens. Alors, certains critiques, parmi les rares critiques qui ont écrit sur le sujet, notamment le deuxième dans la liste, je n'ai pas ma liste, donc je ne sais plus lequel, mais le critique qui a écrit en 81, ont tenté de faire des grands tableaux extrêmement savants, mettant en regard des citations de Wittgenstein et des extraits de Thomas Bernhardt. Je ne vous les ai pas photocopiés, j'aurais peut-être dû, simplement pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je ne trouve pas ça du tout pertinent, notamment parce que la plupart du temps, on ne comprend pas pourquoi on a mis précisément tel extrait de Bernhardt en regard de tel extrait de Wittgenstein, ni pourquoi, même en admettant qu'il y a un lien intrinsèque entre les deux façons de formuler les choses, on ne voit pas pourquoi on a choisi telle citation de Bernhardt plutôt qu'une autre, puisque, vu la façon dont il écrit, les choses sont à peu près interchangeables, et c'est justement le problème, puisque finalement, on n'a aucune progression, et en tout cas, les reformulations ne permettent jamais d'aboutir à quelque chose qui soit un tant soit peu plus précis ou plus près d'une forme qu'on pourrait avoir à exprimer. Et probablement pour étayer une hypothèse du type Wittgenstein est effectivement une influence majeure pour la prose de Bernhardt, il faudrait probablement avoir accès aux archives, les dépouiller consciencieusement et faire une étude stylistique sur Bernhardt. Une étude extrêmement pointue, c'est-à-dire en gros faire une thèse sur ce sujet-là. Et donc je suis en mesure de vous dire, je ne trouve pas ça pertinent de mettre en regard, etc., mais je ne suis pas en mesure de vous dire, de vous donner des résultats qui puissent contrer à la limite les résultats de ce critique de 81. À sa décharge, évidemment, il écrit en 81, avant le neveu de Wittgenstein, avant le déjeuner chez Wittgenstein, avant la place des héros, à plus forte raison. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que on a plusieurs passages chez Bernhardt qui mettent en scène l'échec de parler de Wittgenstein dans la prose de Bernhardt. Les personnages n'y arrivent pas. Je vous ai cité tout à l'heure dans le passage de la plâtrière où on n'a pas de communication possible, mais dans un ouvrage plus centralement philosophique, même s'il parle beaucoup des magasins de Vienne, qui s'appelle donc Marché, et dont le titre même fait allusion à une tradition philosophique, hein, celle d'une philosophie péripatétique, donc évidemment, on est toujours dans des choses surinformées chez Bernhardt, c'est la citation 16. Eh bien, on aboutit à une impasse, ou plutôt un arrêt. C'est pas une impasse puisqu'on est sur un pont, mais en tout cas un arrêt de la marche, à la fin de Marché. Citation. Puis, Eula et moi, nous trouvons sur la Friedensbrücke. C'est sur la Friedensbrücke que Karin avait abandonné l'idée de m'expliquer une phrase de Wittgenstein. Épuisé, Karin n'évoqua même plus le nom de Wittgenstein une fois arrivé sur la Friedensbrücke. Moi-même, je n'étais plus capable d'évoquer le nom de Ferdinand Ebner, dit Eula. Nous, évidemment, la confrontation Ebner et Wittgenstein est assez... moi, je la trouve assez drôle, mais... C'est peut-être pas fait pour être drôle. Nous voulions nous expliquer réciproquement deux phrases, dit Eulin. Moi, à Karin, une phrase de Wittgenstein qui lui paraissait parfaitement obscure. Lui, Karin, voulait m'expliquer une phrase de Ferdinand Ebner qui me paraissait parfaitement obscure. Mais d'épuisement, nous nous sommes soudain trouvés incapables, sur la Friedensbrücke, de prononcer les noms de Wittgenstein et de Ferdinand Ebner parce que notre marche et notre pensée, l'une découlant de l'autre, dit Eulin, avaient produit une incroyable tension nerveuse devenue quasiment insupportable. Le combat cesse, faute de combattants, on arrête de parler de Wittgenstein et on obéit enfin à la proposition 7 du Tractatus, on se tait. Et le roman se termine quelques pages plus tard. Ah, le roman, la nouvelle. C'est une remarque que fait aussi le biographe, un des biographes de Bernhardt, Hans Hölle, à propos des professeurs de philosophie qui peuplent la prose de Bernhardt. Je cite, « Comme dans tous les textes de Bernhardt, la philosophie de ces professeurs de philosophie nous reste inconnue. En lieu et place, le texte nous introduit dans un système de goût personnel, de passion, de ressentiment et d'idiosyncrasie, de maladie et de souffrance, où l'on reconnaît Thomas Bernhardt lui-même. » Je ne sais pas si on reconnaît Thomas Bernhardt lui-même, oui, jusqu'à un certain point. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, effectivement, tous ces professeurs de philosophie parlent de tout sauf de philosophie. Et quand ils expriment quelque chose qui a trait à la philosophie, on peut le voir très nettement, par exemple, sur Heidegger dans Les Maîtres anciens, ils parlent d'une chose qui est complètement extérieure, à première vue en tout cas. Ils parlent de l'enveloppe, ils parlent du personnage, ils parlent justement de ce dont on n'est jamais censé parler quand on parle de philosophie, qu'on est quelqu'un de sérieux. On parle de la vieille photo de Heidegger qui montre Heidegger devant son chalet avec ses chaussettes tricotées par sa femme. On parle de... Donc, ces deux personnes, on n'a pas arrêté de laisser tomber le nom de Wittgenstein dans la conversation, mais au moment où il faut en parler vraiment, au moment où il faut interpréter, parler de ce que dit Wittgenstein, eh bien, de toute façon, ils ont trop marché, ils ont trop piétiné dans les magasins, ils sont sur la Friedensbrücke, qui est un pont vers on ne sait où, enfin si, vers l'île du Danube, mais qui est un pont qui ne les mène pas vers rien du tout de sensé. Donc, une réception étirée, une réception riche de Wittgenstein à l'intérieur de la pensée de Bernhardt, mais probablement une fin de non-recevoir ou peut-être un constat d'impuissance, un constat qui dit « je ne peux pas, je ne veux pas, je ne le ferai pas, en tout cas je ne parlerai pas de Wittgenstein et en tout cas je n'essaierai pas de le réinsérer à l'intérieur de ma littérature », ce qui fait que les personnages bernhardiens sont toujours en train d'échouer, de s'échouer même sur l'écueil que représente Wittgenstein, écueil de lecture, mais aussi écueil au niveau de la parole. Et même, on pourrait dire qu'ils échouent la plupart du temps à exprimer ou à dire quoi que ce soit qui ressemble à un sinnvoller Satz. Ça, c'est à peu près clair, puisque la plupart sont des jugements. En tout cas, si on a du sens, on a du sens, on n'a pas un sens qui dépasse justement les idiosyncrasies du personnage qui parle. En tout cas, pas de description du monde, pas de recherche de la phrase juste. Et au contraire, les ambitions qui vont dans ce sens-là sont niées dès le début. Hein, on nous dit très clairement à chaque fois, entre les lignes, mais c'est là, je ne décrirai pas le monde, je ne serai pas une fiction qui décrit le monde. J'ai mis un certain nombre d'extraits d'un texte très intéressant qui s'intitule « Trois jours ». Je n'ai pas le temps de les commenter toutes, mais je vais vous citer quand même la citation 17b, en bas de la page 4, où Bernhardt nous dit « Dans mes écrits, tout est artificiel. » Comme éventuellement, on peut parler d'une langue artificielle, d'ailleurs. « C'est-à-dire que tous les personnages, les faits, les incidents se jouent sur une scène et la scène est plongée dans les ténèbres. Les personnages qui paraissent sur l'espace carré de la scène, là, c'est carrément un contresens de traduction, c'est pas ça que ça dit, mais enfin, sur la scène carrée, sont mieux reconnaissables dans leur contour que sous un éclairage normal, comme c'est le cas dans la prose ordinaire. Dans l'obscurité, tout devient clair, pas seulement les apparitions, ce qui relève de l'image, mais la langue aussi. Il faut imaginer des pages totalement noires, le mot s'éclaire, de là sa netteté, Deutlichkeit, et, ou sa netteté redoublée, Überdeutlichkeit. Je me suis servi dès le début de ce moyen artificiel. Lorsque l'on ouvre un de mes livres, il en va aussitôt ainsi. Il faut imaginer qu'on est au théâtre avec la première page, on lève un rideau, le titre apparaît, obscurité complète. Et lentement de ce fond, de cette obscurité, surgissent des mots qui se transforment en des processus de nature, tant intérieurs qu'extérieurs, et qui, à raison même de leur caractère artificiel, deviennent tels avec une particulière netteté. J'ai l'impression que cette façon de dire la scène que je mets, qui est ma scène littéraire, n'est pas le monde, est aussi une façon de tenir compte, en quelque sorte, d'une impossibilité. À partir du moment où on dit « ma langue est artificielle et la situation est artificielle », en quelque sorte, je me détache du référent, les choses deviennent tout de suite, finalement, paradoxalement, beaucoup plus justes dans la façon de les aborder. Après, il y aurait énormément à dire probablement sur ces choses-là, mais justement, je préfère passer pour éventuellement qu'on puisse en parler. Je passe... Donc justement sur le problème de cette langue in vitro, hein, en fait cette langue dans une situation artificielle, et je vais essayer d'établir quelques thèses à propos des quatre grands textes qui m'intéressent, donc Correction, Le neveu de Wittgenstein, Le déjeuner chez Wittgenstein et Goethe stirbt, nous dit l'allemand, avec écrit non pas S-T-I-R-B-T, mais S-C-H-T-I-R-B-T. Alors, j'ai traduit un petit peu maladroitement par Goethe se meurt, parce qu'il faut bien étaler ce stirbt. C'est une traduction comme une autre. Un traducteur probablement trouverait quelque chose de mieux, qui est un texte de 82. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé de correction, donc je vous laisse revenir aux citations 18, 19 et 20. Je voudrais simplement citer deux choses là-dedans. La deuxième citation de la citation 19. Je cite, « Remettre à la nature le cône et ma science de la nature, ainsi écrit Reuthammer, après la mort de sa sœur, tout de même que nul être humain n'entrera plus dans le cône, personne n'entrera plus dans ma science de la nature. » Qui est une chose assez étrange, puisque la pureté mortifère du cône d'habitation est ici redoublée par une sorte de pureté complètement close à la vie, hein, de la pensée. Alors, de la science de la nature, Naturwissenschaft, c'est toujours le problème de cette... On pourrait traduire tout simplement par la science, hein, ma science, mais la science au sens d'une science dure. Et ici, d'autant plus dure qu'on ne peut même pas rentrer dedans, en quelque sorte. Et finalement, si l'on veut, on voit très bien que le cône est inhabitable, enfin plutôt, la pensée, cette pensée est inhabitable, pour reprendre je ne sais plus qui, et, la seule mise en application de cette pensée, le cône d'habitation, est lui-même inhabitable. Et tout ça va revenir à la nature, va être laissé, en quelque sorte, aux fougères et aux arbres de la forêt autrichienne, qui va reprendre possession de ce grand cône de béton brut. Le problème qui me semble posé par correction, c'est justement le problème de la mise en application, le problème du lien entre une pensée de ce type-là et ce qui peut en résulter éventuellement. Et c'est le problème justement de la limite entre la rigueur de cette pensée et la limite ultime, une limite de folie, qui est aussi, en l'occurrence, la mort. Je cite les trois citations de la citation 20, où il parle de la correction essentielle qui leur est propre, leur suicide, donc la dernière correction qu'on peut apporter à un être humain, c'est effectivement de le rayer complètement de la carte. Et évidemment, on pourrait mettre en regard à chaque fois, ici, pas au niveau d'une réécriture, mais au niveau simplement d'un écho, les passages du Tractatus consacré à la mort, hein, qui nous disent justement qu'il y a bien quelque chose qui est impensable, en tout cas qui ne rentre pas dans les mots, c'est bien ça. Enfin, je dis ça, désolé de le dire de façon si peu correcte, mais enfin, je vous renvoie au passage du Tractatus consacré à la mort. Et donc, la citation suivante, « Correction de la correction de la correction de la correction, selon Reuthammer, symptôme de folie, insomnie, satiété de la vie, soliloque de plus en plus. » Et la dernière phrase du roman, « La fin n'est pas un processus, point, clairière, point. » Clairière, c'est Lichtung. Je m'interroge encore sur le fait de savoir s'il y a une reprise de Heidegger derrière ça. Je pense que la réponse est oui. La fin n'est pas un processus, c'est-à-dire kein Vorgang. Clairière, pourquoi ? Parce qu'il s'est suicidé dans une clairière. À nouveau, évidemment, on a tout ce jeu qui est proprement le jeu littéraire sur le sens propre et le sens figuré. Ici, le sens figuré éventuellement heideggerien. Voilà, le passage du Tractatus qui me semblait se rapprocher de ça, c'est la proposition qui dit « La mort n'est pas un événement de la vie, on ne vit pas la mort. » Qui me semble justement, en plus, se raccrocher aux thèses heideggeriennes de façon extrêmement complexe que je n'arrive pas bien à formaliser. Je termine rapidement sur « Le neveu de Wittgenstein ». J'ai parlé tout à l'heure de l'intertexte français, hein, le neveu de Rameau, bien sûr, au sens où, comme dans le neveu de Rameau, le neveu de Wittgenstein est fou, sauf que le neveu de Wittgenstein fou a vraiment existé, au Steinhof. Donc, à nouveau ici, tout un jeu sur le biographique. On a même des passages entiers qui sont probablement des réécritures de Diderot. Tout le problème, justement, c'est ce problème du rapport entre la philosophie et la folie, d'une philosophie tellement extrême que dans ses conséquences pratiques, elle peut éventuellement être aux confins de quelque chose. C'est la citation 21. Vous voyez qu'on arrive vers la fin. Je cite, « Pendant un siècle, les Wittgenstein ont produit des armes et des machines, puis, pour couronner le tout, ils ont fini par produire Ludwig et Paul, le célèbre philosophe d'importance historique et le fou non moins célèbre, et peut-être plus célèbre encore, à Vienne du moins, et qui, au fond, était tout aussi philosophe que son oncle Ludwig, tout comme, à l'inverse, Ludwig, le philosophe, était aussi fou que son neveu Paul. L'un, Ludwig, c'est sa philosophie qui l'a rendu célèbre, l'autre, sa folie. L'un, Ludwig, était peut-être plus philosophe que l'autre, Paul, peut-être plus fou. » Mais je pense qu'on a le fond tout à fait adapté à cette prose-là. Mais il se peut que nous ne croyions, du Wittgenstein philosophe, que c'est lui le philosophe, que parce qu'il a couché sur le papier sa philosophie et pas sa folie. Et que nous ne croyions de l'autre, Paul, que c'est lui le fou, que parce qu'il a refoulé sa philosophie au lieu de la publier, refoulé, unterdrückt, hein, pas le terme freudien. Unterdrückt, c'est-à-dire au sens d'où on... pas le terme freudien. Unterdrückt, c'est-à-dire au sens d'où on... de quelqu'un qui étouffe un rire, un bâillement, etc. C'est le verbe qu'on utilise pour ce genre de choses. Il n'a exhibé que sa folie. Tous deux étaient des êtres tout à fait extraordinaires et des cerveaux tout à fait extraordinaires. Pensez au mot cerveau dans la lettre. L'un a publié son cerveau, l'autre pas. J'oserais même dire que l'un a publié son cerveau et que l'autre a mis son cerveau en pratique. Et là, on arrive au problème de la pratique, justement, de la mise en pratique. Et quelle est la différence entre le cerveau livré au public et qui se livre constamment au public et le cerveau mis en pratique et qui se met constamment en pratique? Quelle est la différence, justement? Et ça, le texte pose la question de façon évidemment à moitié ironique, mais probablement avec un... en tout cas, le texte littéraire est probablement le seul, sous cette forme-là, à pouvoir poser la question comme ça, qui est en fait la question de l'œil qui ne peut pas se regarder, en quelque sorte, la question que ne peut pas poser la philosophie, justement, sur elle-même, à un certain moment de son développement. Mais, cependant, citation 22, « Il est absurde, nous dit toujours le narrateur du Neveu de Wittgenstein, d'établir une comparaison entre Ludwig et Paul. Avec Paul, je n'ai jamais parlé de Ludwig, encore moins de sa philosophie. Parfois seulement, et de façon assez inattendue pour moi, Paul avait dit « Tu connais sans doute mon oncle, Ludwig. » Rien de plus. Pas une seule fois, nous n'avons parlé du Tractatus. Hein, ils l'ont fait schwiegen, en quelque sorte. Hein, ils n'en ont pas parlé. Je passe sur le déjeuner de Wittgenstein qui reprend ces mêmes thèmes, justement, et la même tension entre folie et philosophie, puisque, justement, dans le déjeuner chez Wittgenstein, le Wittgenstein qu'on a dans la pièce, c'est une contamination de Paul et de Ludwig, donc du fou et du philosophe. Puisque, on va quand même citer. La citation 24, Rita, qui est une des sœurs de Wittgenstein, en fait, qui dit « Pour cela, notre frère est notre génie. Bien sûr, domicilié à Steinhof. » Petite maison, mais qui, dans les universités anglaises, est l'objet de discussions qui en ont fait un philosophe sujet de thèse doctorale. Voilà. Je termine justement sur une falsification, sur un problème du rapport entre l'écrivain et le philosophe, dans cette espèce de petite, on pourrait appeler ça une grotesque, hein, c'est un genre qui existe dans la littérature allemande, qui s'appelle Goethe stirbt, donc Goethe se meurt, dans lequel Goethe, donc, quelques jours avant de mourir, lit avec grande attention le Tractatus et, avant de mourir, dit donc, c'est la fin de ce petit texte qui a été publié dans la Zeit en 82 pour l'anniversaire, Goethe est mort en 1832, donc pour les 150 ans de la mort de Goethe. Et Goethe dit, ce n'est pas dans l'éléphant qu'habite Wittgenstein. On aurait pu s'en douter, effectivement. Ce n'est pas dans l'éléphant qu'habite Wittgenstein, apparaît-il dit et répété Goethe, même quand il était sur son lit de mort. Mais dans ma maison, tout à côté de ma chambre, il n'y en a pas d'autre qui soit fait pour ça. Sans qu'on puisse vraiment savoir dans la phrase s'il parle de la chambre ou de Wittgenstein. Parce que c'est masculin tous les deux. Je veux Wittgenstein près de moi, apparaît-il dit Goethe à Riemer. Riemer qui est un ami, un vrai ami de Goethe, en tout cas un ami qui a réellement existé. Lorsque Goethe est mort ensuite, justement le 22, j'ai tout de suite pensé quel coup du destin que Goethe ait invité Wittgenstein à Weimar précisément pour ce jour-là. Quel signe des cieux. Ceux qui doutent et ceux qui ne doutent pas. Das Zweifelnde und das Nichtzweifelnde, apparaît-il dit Goethe en avant-dernier. Donc une phrase de Wittgenstein. Et peu après, ces deux mots qui sont ces plus fameux, mehr Licht, plus de lumière. Mais la vérité est que Goethe a dit en dernier non pas mehr Licht, mais mehr Nicht. On a toujours ce problème justement qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. À la fin de Bernhardt, il ne reste justement pas grand-chose. Il y a toujours une espèce de délitement qui veut dire rien de plus. Seuls Riemer et moi et Kreuter étions présents. Nous, Riemer, Kreuter et moi, nous sommes mis d'accord pour faire savoir au monde que les derniers mots de Goethe avaient été « mehr Licht » et non pas « mehr Nicht ». C'est vrai qu'une erreur est si vite arrivée. Après la mort de Riemer et Kreuter, je souffre encore de ce mensonge qui est une falsification, Verfälschung. Ce qui nous indique bien justement que quand on est un écrivain, il vaut mieux terminer sur des note positive, et pas justement sur cette espèce de Auslöschung, donc d'extinction, qui termine à nouveau ce petit texte sur la mort de Goethe. Je vous remercie pour votre attention.